Si vous avez loupé les précédents épisodes de Destin de Légende, vous pouvez les écouter avant d'entamer celui-ci. Pour les autres, votre épisode inédit commence maintenant.
Les ventes d'albums ont chuté de 11% l'année dernière. L'industrie a perdu plus de 100 millions de CD et de cassettes sur ses ventes en 2 ans. Cela ne fait plus aucun doute, il y a une crise dans l'industrie de la musique.
À l'aube du nouveau millénaire, le monde change. Auparavant toute puissante, l'industrie musicale commence à observer de nombreux changements, les ventes d'albums commencent à baisser sérieusement et le R&B s'impose comme le nouveau genre à la mode. Michael, de son côté, prépare son retour. Malheureusement, rien ne se passe comme prévu entre lui et Sony, sa maison de disques. Il est dans une situation qu'il n'a jamais connue dans sa carrière. D'abord, Michael travaille en studio sans réelle conviction, et ensuite la relation qu'il entretient avec sa maison de disques est chaotique. Pour la sortie d'Invincible en 2001, le PDG de Sony, Tommy Mottola, met tout en œuvre pour que cet album soit un flop. Isabelle, ça faisait 4 ans qu'on n'avait pas eu de nouvelles de Michael. Quelles sont les raisons de cette longue absence et quel est son état d'esprit quand il commence à travailler sur son nouvel album?
Avec la naissance de son fils aîné et de sa fille en 1997 et 98, Michael Jackson se retire de la scène dès la fin de la promotion de ses albums précédents. Même si l'enregistrement d'Invincible commence assez rapidement, il s'investit beaucoup moins dans cet album et privilégie sa vie de famille et ses projets humanitaires. Alors, ce manque de motivation peut aussi être imputé aux relations dégradées qu'il entretient déjà à cette époque avec son label, lequel l'a lâché lors des accusations de Chandler et a sabordé la promotion d'Album History pour une phrase interprétée comme antisémite dans le titre « They don't care about us ».
Depuis 1993, donc, Michael et Sony entretiennent des rapports plus ou moins conflictuels, ce qui correspond en fait à l'arrivée de Tommy Mottola à la tête de cette maison de disques. Isabelle, rapidement, pouvez-vous nous expliquer l'origine du conflit entre Michael et le nouveau PDG de Sony?
Tommy Mottola, qui est à la tête de Sony depuis le début des années 90 et qui a succédé à Walter Yetnikoff, en portant le label à ses sommets, est au cœur de cette tourmente. Michael Jackson l'aurait en effet surpris, employé le mot de « nigger » pour parler de l'un de ses poulains alors qu'il était justement dans le bureau. Et ça l'a conduit à mettre Mottola sur sa liste noire et à dénoncer son traitement raciste des artistes.
Mais malgré le passif qui lie ces deux hommes et les différentes tensions auxquelles ils ont été confrontés, Michael doit contractuellement livrer un nouvel album. Les premières heures de travail autour d'Invincible prennent alors forme.
De tous mes albums, c'est celui qui a été le plus difficile à faire, parce que j'ai été très dur avec moi-même.
Mais comme vous pouvez vous en douter, l'investissement de Michael dans ce projet est minime. Il va se contenter du strict nécessaire, il compose seulement 2 chansons pour ce disque. À titre de comparaison pour son album Bad, il avait écrit et composé pas moins de 9 titres. Même si les relations entre lui et son patron peuvent expliquer ce manque de motivation, en réalité, il y a une autre raison qui est au centre des préoccupations de Michael. L'artiste veut réaliser son rêve d'enfance, réussir dans le monde du cinéma. En plus de vouloir créer des musiques de films, il se voit au haut de l'affiche, côtoyant les plus grandes stars du 7e art. Et c'est comme ça que le nom de Michael Jackson est envisagé pour figurer dans de grosses productions américaines.
Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, Mike ?
Enregistrer d'autres artistes et devenir acteur. On a déjà pas mal de scénarios, mais on doit encore trouver lequel on va utiliser. On va donc choisir et prendre une décision.
Tu voudrais être une star du cinéma plus tard, n'est-ce pas?
Ouais, j'aimerais bien tenter le coup.
Depuis qu'il est enfant, il a ce rêve d'être une star du cinéma, mais il ne pourra jamais vraiment le concrétiser. Le paradoxe, c'est que Michael a collaboré avec les plus grands producteurs. Isabelle, pourquoi on ne l'a jamais vu dans un premier rôle sur grand écran? Et qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire d'amour à sens unique entre le roi de la pop et le 7e art?
Le cinéma a été une des grandes passions de Michael Jackson et ses rapports avec lui sont riches et complexes. On sait qu'il avait étudié les plus grands chefs-d'œuvre pour s'en inspirer dans ses courts-métrages musicaux, qu'il entretenait des relations avec des légendes du cinéma et qu'il n'avait qu'un souhait, se consacrer au 7e art. Dès le début des années 80, Michael va aussi avoir le projet d'interpréter le rôle de son personnage fétiche, Peter Pan, encouragé même par Jane Fonda dans ce projet. Ça aurait dû voir le jour grâce à Steven Spielberg, et notamment parce que Michael Jackson et lui venaient de travailler ensemble sur l'histoire d'E.T. l'extraterrestre. Les liens auraient pu se faire et le projet aboutir, mais finalement cela tombera à l'eau, Spielberg préférant se consacrer à sa vie de famille à ce moment précis et à d'autres projets. Nombreux sont les rôles pour lesquels Jackson est pressenti et qu'il rêve lui-même d'incarner. Un rôle dans Star Wars, un rôle dans Édouard aux mains d'argent, dans Hook, Charlie et la chocolaterie, Spider-Man. Il finira par faire une courte apparition dans Men in Black 2, non sans humour. En tout cas, la plupart des rendez-vous vont être manqués. Il s'associera toutefois aux plus grands producteurs et réalisateurs, John Landis, Martin Scorsese, Coppola, Lucas, Stan Winston, David Fincher, Spike Lee, John Singleton, et fera apparaître dans ses vidéos également de grands acteurs.
Pour Jackson, qui a visiblement la tête ailleurs, cet album n'est pas la priorité. Pourtant, il doit livrer des titres le plus vite possible, alors une fois l'enregistrement terminé, la promotion d'Invincible peut enfin démarrer. Et elle commence fort avec le titre You Rock My World. Ce titre, bien qu'efficace, n'est pas le premier choix de Michael qui veut une autre chanson comme premier single, mais Sony refuse bon nombre de requêtes de la plus grosse star de son écurie. On assiste alors à une véritable guerre interne entre le PDG et le roi de la pop. Décidément, rien ne semble pouvoir arranger la situation entre les deux hommes. Pourquoi Jackson et Mottola sont irréconciliables à cette époque, Isabelle ?
Donc le chanteur l'accuse, comme nous l'avons dit, de racisme et aussi de vouloir, pour pallier la crise, récupérer l'intégralité de son catalogue ATV qu'il avait acquis en 86 et qu'il ne souhaitait pas revendre en totalité au label. C'est vrai que les politiques et les investissements de label sont revus à la baisse en cette période de crise. Mais Sony rejette donc la faute sur Michael Jackson qui, de son côté, lui refuse d'organiser une tournée aux États-Unis. Dès lors, ces conflits sont ouverts et Michael Jackson ne parvient pas à organiser la conception et la promotion de son album comme il le veut.
Aussi puissant qu'il puisse être dans cette industrie musicale, les choses vont se corser pour Michael quand le PDG de Sony décide de saboter le projet de l'artiste. Comment va-t-il s'y prendre ?
Les singles qu'il propose ou les visuels qu'il prévoit sont refusés. Un seul clip vidéo sortira qui questionnera son potentiel créatif, tant il reprend les clichés de ses clips précédents et limite les séquences de danse. Puis un autre clip sortira encore où il n'apparaîtra pas du tout.
Cette promotion chaotique suite à la stratégie de Tommy Mottola et le refus de Michael de partir en tournée annonce le pire pour cet album. Mais au détour d'un compromis, la star et sa maison de disques vont réserver une très belle surprise aux fans du chanteur. On May 13th, Star World pays tribute to the one and only pop legend on his 30th anniversary. Michael Jackson 30th anniversary celebration coming May 13th on Star World. En 2001, Michael remonte sur scène pour célébrer ses 30 ans de carrière solo. Et pour l'accompagner lors de ses deux soirées spéciales, une pléiade de stars a répondu présent. Usher, les Destiny's Child ou encore Whitney Houston sont annoncés et les shows sont enregistrés les 7 et 10 septembre 2001 au Madison Square Garden de New York. Au lendemain du deuxième concert, le roi de la pop se réveille sous le choc. Nous sommes précisément le 11 septembre 2001. Ce jour-là, les télévisions du monde entier repassent en boucle les images d'un terrible événement survenu au World Trade Center de New York.
Il était 8h56 à New York. Un Boeing vient de percuter le World Trade Center. 9h14, un deuxième avion de ligne éventre la tour sud. 400 mètres plus bas au sol, la panique. Manhattan, New York, les États-Unis, chacun a compris. Il n'y a plus de civils, il n'y a plus de pompiers, plus de policiers. Il y a juste des milliers de gens qui fuient l'horreur.
Plusieurs sources affirment que Michael Jackson avait un rendez-vous à cet endroit au moment de l'attaque terroriste qui a touché les États-Unis. Comment a-t-il réagi en apprenant cet événement tragique, Isabelle ?
Alors, quand les attentats ont lieu le lendemain matin, il quitte la ville en catastrophe, croyant, comme il le dira lui-même avec les vestiges de sa foi en Jéhovah, qu'il s'agit de la fin du monde. 5 jours après le drame, il annonce son projet musical « What More Can I Give ?» qui vise à rassembler 50 millions de dollars pour les familles des victimes et les survivants de l'attentat, par le biais des téléchargements, de sponsors et de donations. À Neverland, les employés raconteront plus tard qu'il a fait éteindre toutes les lumières, toutes les musiques du jardin, tous les jets d'eau, plongeant cette propriété pourtant si joyeuse et toujours porteuse d'espoir, d'une manière totalement unique dans l'obscurité et le silence pendant plusieurs jours.
Les semaines passent et le 30 octobre 2001, le public découvre enfin le nouvel album de Michael. Invincible réalise un excellent démarrage malgré cette atmosphère très particulière liée au 11 septembre, mais la relation conflictuelle entre le roi de la pop et Tommy Mottola ne lui permet pas de continuer sur cette bonne dynamique. Avec cet album, celui qu'on surnomme aussi Bambi se met au goût du jour en proposant des titres à la sauce R&B. Mais ce nouveau disque peine à convaincre et divise les plus grands fans de la star. Invincible déçoit et l'animosité entre Michael et le PDG de Sony atteint son paroxysme. En plus de sa guerre avec le PDG de Sony, Michael doit faire face aux nouvelles évolutions du marché du disque qui sont pour le moins nombreuses. Et on l'a dit un petit peu plus tôt, la conception d'Invincible a été compliquée. Quel est l'état d'esprit de Michael au moment où cet album voit le jour ?
Après 4 années de travail et une dépense de 30 millions de dollars pour réaliser l'album, Michael Jackson n'est toujours pas satisfait du résultat. Pourtant, la pression de son label et de son public le contraigne à sortir Invincible, qui sera, mais il ne le sait pas encore, son dernier album. Cet album est donc édité dans un contexte difficile, marqué par la crise du disque, liée aux difficultés rencontrées par les labels et les artistes de s'adapter aux nouveaux formats culturels et technologiques, parmi lesquels notamment Internet et ses plateformes de téléchargement, des choses qui sont rentrées désormais dans notre quotidien.
Maintenant qu'on sait tout ça, à quoi ressemble finalement cet album et qu'est-ce qui fait qu'Invincible reste un projet à part dans la discographie du roi de la pop ?
Invincible met donc un pied dans le troisième millénaire à une époque très agitée. En se profilant un peu au bout de cette carrière et en ce début de nouveau millénaire, Michael Jackson tente de revenir à des fondamentaux musicaux afro-américains dont les principaux jalons sont essentiellement le rap et le funk industriel. Je pense à des titres comme Unbreakable, Earthbreaker, Invincible, Threatened. Il y a aussi quelques exceptions avec des incursions dans le rétro jazz comme Butterflies, le R&B synthétique et vaguement luxuriant comme Heaven Can Wait ou Break of Dawn. Des titres un peu plus dansants comme You Rock My World, du gospel comme Speechless Cry, des ballades teintées de soul comme You Are My Life, The Lost Children, une petite connotation heavy metal dans 2000 Watts et Privacy, et enfin une petite touche de musique latine dans Whatever Happens. Donc, on voit bien que cet album reste confiné dans un giron noir, tout en faisant preuve d'une certaine diversité des conventions et des styles et des influences qui oscillent entre tradition et modernité et qui font que finalement Invincible va être une passerelle entre le 20e et le 21e siècle.
Avec cet album, Michael surprend ses fans puisqu'il a décidé d'innover mais de rester aussi sur ce que proposait le marché du disque à cette époque, à savoir le R&B. Comment cet album est-il reçu à l'époque ?
Il est perçu tantôt positivement comme étant l'album le plus agréable depuis Bad, tantôt négativement comme une régression dans la dynamique de défi créatif que Jackson avait engagé durant les décennies précédentes, en utilisant cette fois-ci des formules musicales qui limitent les prises de risques commerciales et qui sont bien ancrées dans l'instant présent. En tout cas, l'album va se vendre vite durant la première semaine de commercialisation et démarrer en première place des charts en Amérique, en Angleterre, en France, en Australie, en Allemagne et aussi en Italie. Avec ses 10 millions d'exemplaires vendus, les résultats que Invincible obtient sont certes relativement décevants par rapport au succès moyen des autres artistes, ou même par rapport à ceux de Jackson en général, mais ils restent quand même tout à fait corrects. Pour la critique, le problème de Jackson est de devoir à nouveau faire face à la concurrence et aux attentes du segment le plus jeune du marché, notamment R&B, à la différence près que cette génération présente pour la première fois un décalage véritable de génération avec lui. C'est la première fois finalement qu'il doit essayer de rentrer en connexion avec un public qui n'a pas grandi avec lui. Désormais, les nouveaux acheteurs de disques soit ne connaissent pas Jackson, soit ne s'intéressent pas à lui forcément à cette époque.
Professionnellement parlant, Michael Jackson traverse une période assez compliquée et les résultats concernant Invincible sont loin de satisfaire Sony. Ce nouveau projet qui devait créer l'événement comme pour chaque sortie d'un nouvel album du roi de la pop obtient un accueil mitigé. Se sentant abandonné et trahi par sa maison de disques, Michael dévoile au grand jour les tensions qu'il oppose au label de Tommy Mottola.
J'ai fait gagner plusieurs milliards de dollars à Sony. Plusieurs milliards. Et ils sont très remontés contre moi parce que j'ai juste été un bon businessman. Alors ils essayent de se venger en détruisant mon album. Je quitte Sony. Je suis libre. Mais je vous le promets, le meilleur reste à venir. Je vous le promets.
Cette rivalité entre le PDG de Sony Music et le roi de la pop n'a que trop duré. C'en est trop pour les grands dirigeants de la multinationale qui poussent Tommy Mottola vers la sortie, et c'est une victoire pour Michael qui renoue le dialogue avec sa maison de disques. Mais sa joie va être de courte durée. Quelques semaines plus tard, le 3 février 2003, le documentaire Living with Michael Jackson, qui le met en scène, suscite de vives réactions.
Découvrez Michael Jackson comme vous ne l'avez jamais vu. Sa musique, son argent, ses enfants, sa vie sexuelle, son visage. En d'autres mots, son monde.
Découvrez Michael Jackson comme vous ne l'avez jamais vu. C'est la promesse de ce programme du journaliste Martin Bashir, et on peut le dire, cette promesse a été tenue. Sauf que le portrait qui est fait de la star internationale est loin d'être flatteur. Isabelle, ce documentaire va créer l'événement puisque pour la première fois, on va pouvoir suivre Michael Jackson dans son quotidien. C'est assez rare pour être souligné. Pourquoi a-t-il accepté de se soumettre à un tel exercice ?
En 2002, Michael Jackson accepte, c'est vrai, de se dévoiler devant les caméras de Martin Bashir. Alors, il avait été touché par la manière dont celui-ci avait mis sous le projecteur Lady Diana quelques années plus tôt et la manière assez positive par laquelle il l'avait finalement mise sous le regard du public. Jackson souhaitant se livrer sans filtre et ne se doutant pas que ce journaliste vise alors le buzz et sa propre promotion, en réalisant un documentaire choc, il le laisse le suivre pendant 8 mois, lui fait partager ses passions, ses souvenirs, ses émotions, son quotidien. Ce documentaire de Bashir va vraiment avoir un impact définitivement négatif et dramatique sur l'opinion publique. La réputation de Michael Jackson va rester entachée, sa carrière ébranlée, sa santé fragilisée, et tout ça va peu à peu le conduire au gouffre que l'on connaît.
En quoi ce programme est-il un documentaire choc, comme vous dites ? Quelles sont les méthodes employées par Martin Bashir pour nuire à la réputation de Michael ?
Les images vont être détournées, les propos tronqués, des musiques glauques et des voix off vont être aussi ajoutées pour donner vraiment une tournure sordide à l'ensemble et finalement revenir et nourrir les précédentes accusations de pédophilie.
Vous faites allusion, Isabelle, si je me trompe pas, à la plus grosse polémique de ce documentaire, l'histoire d'un adolescent proche de Michael qui apparaît à ses côtés et qui va se retrouver au centre d'une sordide affaire à l'image de Jordan Chandler en 1993.
Alors au centre, ce n'est plus Jordan Chandler cette fois-ci, mais Gavin Arvizo. Un jeune garçon qui était fan de Jackson et qui, dès l'âge de 10 ans, avait été atteint d'un cancer très grave. Il était parvenu à le contacter depuis son lit d'hôpital et à le sensibiliser à sa situation. Jackson l'appelait régulièrement, lui promettait que s'il guérissait, s'il avait un esprit positif, il pourrait venir le voir à Neverland. et les choses se sont faites peu à peu. Jackson a participé à son traitement, l'a effectivement emmené dans des récréations en Neverland, et puis lorsque l'enfant est sorti de l'hôpital, il est venu avec sa famille s'installer quelque temps là-bas et vivre au crochet de l'artiste.
Ce qui va faire tant parler dans ce documentaire, ce n'est pas forcément le mode de vie de Michael Jackson, ou encore sa relation avec les enfants, mais bien une scène en particulier où l'on découvre ce même Gavin Arvizo révélant une information qui crée un certain malaise chez les téléspectateurs du programme.
Un soir, je lui ai demandé si je pouvais dormir dans sa chambre. Il m'a dit oui. Je lui ai dit « Michael, tu dors dans le lit ?» Et il disait « Non, non, tu dors dans le lit. » Et je lui ai dit, non, c'est toi qui dors dans le lit. Finalement, il m'a dit, Gavin, si tu m'aimes, tu dors dans le lit. Et j'ai dit, ok. Et j'ai dormi dans le lit. C'était drôle ce soir-là.
J'ai dormi par terre. Il y avait un sac de couchage?
Non, tu avais empilé un tas de couvertures par terre.
Cette déclaration relance aussitôt les polémiques sordides concernant le roi de la pop. De son côté, quand Michael découvre le programme depuis chez lui, ce soir du 3 février 2003, il reste sans voix. Avec cette impression, une fois de plus, de s'être fait avoir, d'autant plus que la famille de l'adolescent décide de porter plainte quelques semaines plus tard pour agression sexuelle sur mineur. Cette fois-ci, c'en est trop pour Michael, qui décide de se défendre jusqu'au bout.
Ces dernières semaines, beaucoup d'informations malveillantes ont été publiées dans les médias à mon sujet. Ces informations sont écœurantes et totalement fausses. S'il vous plaît, gardez l'esprit ouvert et laissez-moi me présenter au tribunal. Je mérite un procès équitable comme tous les autres citoyens américains. Je serai acquitté et j'obtiendrai justice lorsque la vérité sera révélée.
Isabelle, Michael Jackson ne va pas attendre le procès pour se défendre. Bien au contraire, il va plutôt décider de mettre Martin Bashir face à ses contradictions.
Ce que n'avait pas prévu Bashir, c'est que Michael Jackson avait filmé en coulisses l'intégralité de ses interventions. Du coup, il était en mesure de produire par la suite des scènes intégrales et de mettre en évidence tout ce qui avait pu être coupé, manipulé, tronqué, sorti du contexte pour parvenir à faire ce brûlot audiovisuel. Il va même par la suite faire diffuser deux documentaires en guise de droit de réponse, dont un notamment dans lequel on verra toute la famille Arvizo témoigner de manière très positive et agréable sur leur vie à Neverland auprès de Michael, en expliquant ou en laissant paraître qu'il n'y a aucune trace de perversité en lui et même pas la moindre ambiguïté possible.
Ce que vous dites à propos de la famille Arvizo, Isabelle, est intéressant, puisque souvenez-vous, au cours de cette saison, je me suis entretenu avec Sewill Giroux, un homme qui a connu Michael Jackson quand il était plus jeune et qui a passé du temps avec lui à Neverland. Il a donc pu croiser et même connaître Gavin Arvizo quand il était chez Michael, et voici ce qu'il m'a répondu quand je lui ai demandé comment Gavin se comportait avec Michael.
Quand j'ai vu Gavin comment se comporter avec Michael, c'était super pote en fait. Gavin, il a dû rester 2-3 ans à Neverland. Même quand Michael partait et tout ça, il devait rester à Neverland. On aurait dit presque un fils ou un fils caché quoi, même s'il lui ressemblait pas du tout hein. Mais ils avaient une complicité qui était extraordinaire quoi. Et quand j'ai appris que Gavin Arvizo l'attaquait quelques mois après, donc j'ai vu Gavin et Michael ensemble, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est pas le même, c'est incroyable quoi. Non, il y avait rien de suspect, c'est même Gavin qui demandait à Michael de dormir dans sa chambre et tout ça. Il y a même une phrase comme séquestration à Neverland. Sauf que moi et Michael, on est sortis de Neverland. On était allé à l'extérieur de Neverland. Donc déjà, séquestration à Neverland. Si Gavin voulait s'enfuir de Neverland ou de quand on était à l'extérieur, ça aurait été carrément possible. Enfin, il y avait aucune séquestration. Enfin, ça se voyait que c'était pas le comportement de quelqu'un de séquestré ou de qui était apeuré ou qui était humilié ou je sais pas quoi. Mais ça avait rien à voir. En fait, c'est un peu comme si moi je portais plainte. C'est improbable en fait.
Armé d'un parapluie, d'un costume blanc et d'un gilet orné de bijoux, il doit faire face à des crachats, mais il peut compter sur le soutien de plusieurs centaines de fans. Michael Jackson est venu au tribunal déterminé à être déclaré non coupable, et plus important encore, comme son avocat l'indique, il est ici pour obtenir justice sur les accusations de pédophilie qui menacent sa carrière et sa liberté personnelle.
Cette plainte contrairement à 1993, va conduire au procès largement médiatisé de 2005. Isabelle, comment s'est-il déroulé pour le camp Jackson et la famille Arvizo? Et finalement, comment va-t-il se conclure?
Alors le procès Jackson-Arvizo va s'ouvrir en 2005, il va durer 4 mois. 130 témoins vont défiler à la barre. Le jury va délibérer pendant 32 heures au total, pendant 7 jours. Il ne va pas trouver de preuves ou de témoignages solides pour conclure qu'il y avait à Neverland des actes délictueux qui étaient commis. Il ne va pas croire non plus la famille de Gavin Arvizo dont les manipulations sont mises à jour. Les avocats de Jackson, qui sont d'ailleurs dirigés à l'époque par Thomas Mesereau, vont montrer que cette famille ne cherchait qu'à tirer de l'argent et que ce n'était pas la première fois qu'ils le faisaient. Ces avocats vont également porter le projecteur sur le procureur Tom Sneddon et son désir de vengeance. Lui qui, déjà sans succès, avait tenté de coincer Jackson en 93 pour pédophilie. Michael Jackson va donc être innocenté par un jury qui est constitué d'Américains blancs qui ne sont pas du tout fans de lui, dans une ville, Santa Maria, du comté de Santa Barbara, qui est connue pour sa tendance très conservatrice. Des conditions drastiques, donc, pour rendre indiscutable un verdict qu'on ne pourra pas qualifier de complaisant, mais qui, bien que positif, et bien que tous ces gens, qu'il s'agisse de Chandler, qu'il s'agisse de Gavin Arvizo, qu'il s'agisse de Bashir, vont valoir à Jackson de son vivant des souffrances morales et émotionnelles qui vont définitivement l'affaiblir, et une réputation qui, de manière posthume, continue malheureusement et très injustement à être mise en doute.
Non coupable, non coupable, 10 fois non coupable pour Michael Jackson. En Californie, la conclusion dramatique à l'un des procès les plus sensationnels de l'histoire du divertissement. Jackson, l'une des stars de la musique les plus populaires de l'histoire, a été blanchi cet après-midi de pédophilie et de toutes les autres accusations après 14 semaines de procès souvent glauques. Ce soir, Michael Jackson est un homme libre.
Le 13 juin 2005, Michael Jackson semble détruit et accuse le coup, mais c'est un homme libre qu'il se présente à ses fans. Sur les 10 chefs d'inculpation, aucun ne sera retenu par les jurés qui le déclarent non coupable. C'est une victoire, certes, mais qui laisse cependant des traces. Après ce procès, Michael ne retournera plus jamais à Neverland, suite notamment aux perquisitions menées par la police. Il quittera les États-Unis et se retirera de la vie médiatique jusqu'au prochain épisode.
Alors vous voulez toujours me voir partir ?
Yes ! Yes !
Très bien. Je m'en vais.
C'est la fin de cet épisode, merci d'avoir été avec nous, merci Isabelle pour toutes ces précisions, merci Sohil d'avoir apporté aussi ta contribution. Quant à nous les amis, on se retrouve très vite pour le final de cette première saison de Destin de Légende consacrée à Michael. D'ici là, prenez soin de vous, partagez ce podcast autour de vous et n'oubliez pas, soyez différents, soyez uniques, parce qu'on ne sait jamais, vous avez peut-être, comme Michael, un destin de légende entre vos mains.